Balkenstein. Docteur Balkenstein.
Rieger.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Parfait, Igor. Nous allons le mettre dans le crâne d'Emmanueli.
Bonjour, je suis Jean-François Mattei. Vous ne me reconnaissez pas? Pourtant, l'été 2003, août 2003, la canicule, les 15 000 morts qu'on aurait pu éviter si on avait eu un système de santé efficace. Eh bien, j'étais ministre de la Santé et je passais à la télé en polo et je disais, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et grâce à moi, eh bien, on a pu instaurer cette journée de solidarité bidon à Libye. Et puis moi, je m'en fous parce que je suis à la tête de la Croix-Rouge maintenant et je vous emmerde.
Très bien, bonjour. J'éclate de rire parce que j'ai entendu les informations à Bordeaux, ils ont fait le lundi de l'entrecôte, vous n'avez pas entendu? Et moi j'ajoute au fromage, on doit dire, et rap tarin. Voilà, je vais avoir 80 ans dans un mois. Et je ris beaucoup, ça m'amuse. C'est pas toujours le cas d'ailleurs dans votre émission, mais enfin c'est drôle. Rap tarin. Le lundi de l'entrecôte. Bravo.
Dans l'histoire de France figure un homme d'État bien plus courageux que Raffarin qui supprima, avec l'aval du pape, 2/3 des jours fériés. En effet, sous la pression des colons qui se fâchent de ne pouvoir faire travailler leurs esclaves ces jours-là, un édit royal de 1763 réduit de 30 à 10 les jours fériés en Guadeloupe. Raffarin. Voilà un modèle à suivre jusqu'à la lanterne.
Ça ira.
Oui, salut Daniel, c'est Jean-Philippe à Miséria dans l'Ain. Eh bien écoute, ce matin nous étions 500 devant la préfecture de Bourg à dire à Monsieur Raffarin que la solidarité envers les personnes âgées dépendantes, elle existe, mais pas dans ces conditions-là, en ne faisant payer uniquement le peuple. Et d'un seul coup, notre copain au micro annonce que Carouf avait fermé à Bourg-en-Bresse parce qu'il y avait 95% de grévistes. Et ouais, des grévistes qu'on a eu marre parce que leur petit PDG, il a touché 36 millions d'euros pour foutre le camp. Le pauvre petit PDG, alors qu'il faut 2 millions à un employé, 2 millions de boulot pour arriver à ce montant-là. Pauvre petit PDG. Mais fais gaffe, monsieur Raffarin, on est dans la rue et c'est pas fini.
Ici Claude dans le 63, le Puy-de-Dôme. Je viens d'entendre les actualités de France Inter et les députés UMP nous appellent à voter oui en tenant compte, non pas du contexte, mais du texte. Ben, je suis désolé, mais moi la perche est trop grosse. Hein. Ils me tendent la perche, alors je la prends. Moi je vais voter non, mais pas en fonction du contexte, en fonction du texte con. Voilà, au revoir.
C'était Clémence, alors je suis étudiante en philosophie et je voulais vous appeler pour réagir parce que voilà, j'habite dans un monde où il y a le monde des idées et puis il se cache là en dessous du monde des choses et il y a comme cette distance inaliénable et on nous explique que de toute façon en philosophie il nous reste la prostitution ou alors l'abstraction. Donc moi j'aimerais bien croire qu'il y a une troisième voie et des fois quand j'écoute votre émission j'ai l'impression qu'on peut dire des choses et pas forcément des conneries. Alors ça fait du bien de penser qu'il y aurait comme un domaine d'action qui ne soit pas seulement une compromission.
C'est Yolande, cher concitoyen. Dans concitoyen, il y a con et il y a citoyen, c'est au choix. Celui qui a dit non de Londres aux nazis avait dit « c'est moi ou le chaos » à ceux qui voteraient non plus tard en 1969. Il n'y a pas eu de chaos. Ceux qui nous avaient promis le bonheur, la croissance, pour qui exactement? Le travail avec Maastricht. Vous avez fait peur. Leur Europe devait être la solution à tous nos problèmes. Point de solution. C'est toujours la même chanson depuis des siècles. Soit on vous fait peur, soit on vous discrédite. Il faut de la pédagogie, car vous êtes des cancres ou des mauvais Européens. Il faut leur faire confiance, ou vous êtes des cons. L'exil du Chirac, les Français sont des cons. Comme Voltaire, Condorcet, Hugo, Zola et Éluard. Et les lumières qui nous ont éclairés, ayez le bon sens et le courage de dire non. Rappelez-vous que ni maintenant, ni avec cette constitution, vous n'élirez les membres de la Commission européenne au suffrage universel. point de démocratie, point de chèque en blanc. Au revoir.
C'est Marc de Bruy-sur-Marne. Ton reportage sur les lobbies est très intéressant et montre combien les contre-pouvoirs sont nécessaires à tous les niveaux. C'est ce qu'à gauche nous voulons surtout lorsqu'on entend cette femme là se définissant comme ultra-libérale et pour qui cela signifie le pouvoir au consommateur. On voit quelle jungle elle veut nous préparer. Alors nous sommes tous d'accord à gauche pour refuser ce type de société, mais en votant non au référendum, que va-t-il se passer? Alors la partie 3 du traité, qui est la plus contestée pour son caractère libéral, restera en application puisqu'elle est la reprise de tous les traités négociés et signés depuis 48 ans. Alors les parties 1 et 2, qui sont nouvelles, seront rejetées, elles, alors qu'elles inscrivent sous forme de constitution de nouveaux droits pour les citoyens et des avancées sociales qu'ils figuraient dans aucun traité auparavant. Alors tout cela définit un nouveau cadre pour les pays de l'Est. Ce n'est pas rien quand même. Même si pour nous Français, ce traité n'apporte pas grand-chose à nos habitudes et à notre propre constitution française, il n'en reste pas moins un progrès par rapport au précédent. Et résulte tout de même de la négociation de 25 pays. Alors ceux à gauche qui veulent rejeter le mieux en exigeant le meilleur vont tout perdre. Le progrès social viendra de la lutte des travailleurs et des politiques de gauche, comme toujours depuis plus d'un siècle. Mais les batailles qui nous attendent à gauche seront plus faciles à coordonner, selon moi, à 25 pays avec ce nouveau traité qu'avec l'ancien. Merci Daniel pour tes émissions intelligentes, jamais racoleuses et toujours honnêtes. Alors tu affiches ton refus du nouveau traité, mais tu laisses exprimer ceux qui, comme moi, voteront oui le 29 mai et continueront à t'écouter après, quel que soit le résultat du référendum. Bravo Daniel, continue.
Salut Daniel, je voulais te dire, le traité pour lequel nous allons voter le 29, c'est un progrès, c'est indéniable. C'est même un bond en avant sidéral. Pense donc, l'avancée dans le domaine des libertés, c'est considérable. Celle des revenus est aussi très importante. Un autre avantage à ne pas négliger est celui des conditions de fiscalité qui va directement dans le bon sens. Ah oui, j'oubliais de te préciser que je suis milliardaire capitaliste, bien sûr. Salut.
Bon, ben moi, je suis offusqué quand même par les auditeurs à qui Mermet donne la parole, ou votre émission donne la parole, parce que ils ont des moyens d'expression pour le oui largement suffisants, et dans les médias, et sur les ondes, et à travers toute la presse, je dirais, sauf l'humanité. Alors, au point de vue affichage, c'est pareil. Alors, écoutez, s'il vous plaît, ils ont assez d'antennes. On est depuis 6 mois sur un matraquage qui est digne de la publicité, disons, des mensonges avancés par la France de Vichy. Alors, arrêtez de nous passer des gars qui sont pour le oui. Ils ont largement leur temps d'antenne. Alors, ne passez que les messages pour le non, s'il vous plaît. Merci.
Voilà. Ça s'appelle de la pression. Non au oui et oui au non. Je ferai observer que depuis des semaines, là-bas, si j'y suis, n'a pas pris position, ni moi, ni l'équipe, ni qui que ce soit, pour le oui ou pour le non. On diffuse des messages d'auditeurs, ceux que vous lissez depuis longtemps depuis des années en tout cas sur le répondeur de l'émission, sur l'euro-pondeur, mais nous essayons d'équilibrer. Et sachant très bien que certains messages en faveur du oui sont tout à fait, donnent envie de voter non, et des messages en faveur du non donnent envie de voter oui. Aujourd'hui, on continue notre visite de Bruxelles, des lobbies à Bruxelles. Comment les multinationales construisent, fabriquent l'Europe et l'économie mondiale. Eh bien, c'est un ouvrage qui a été republié ces semaines dernières, qui s'appelle Europe Inc., INC, et qui est dû à une petite équipe de chercheurs européens, hollandais en l'occurrence, qui observent de très près le poids et les pressions que les lobbies exercent sur l'Assemblée européenne, sur l'Union européenne, à Bruxelles. Et on a découvert beaucoup de choses, en tout cas, nous, et puis vous, par voie de conséquence, depuis vendredi. L'émission d'hier également nous a fait découvrir les pressions, le poids de ces 15 000 lobbyistes qui sont présents à Bruxelles. Il faut souligner encore une fois qu'un parlementaire européen, quand il se lève le matin, il a sur le dos 8 lobbyistes qui sont prêts à l'influencer dans tous les sens. Dans tous les sens, ça c'est le principe général, mais effectivement, il semblerait bien que ce soit toujours un petit peu dans le même sens, même si les agents d'influence, enfin ceux qui travaillent dans ces différents cabinets de lobbying, jurent leur grand Dieu qu'il y a toutes sortes de lobbies, aussi bien des lobbies avec des buts, disons, lucratifs, que des lobbies avec des buts non lucratifs. Sauf que on l'a vu et c'est montré et démontré maintenant de façon de plus en plus claire, plutôt les lobbies à but lucratif qui sont à la fois les plus puissants et les plus influents. Quoi qu'il en soit, dans cette période que nous traversons d'une effervescence démocratique tout à fait formidable dans notre pays, on est en considérant ces lobbies, face au contraire à un déficit de démocratie, à des décisions qui ont été prises et qui continuent d'être prises depuis très longtemps dans l'ombre. Et peut-on dire à notre insu? Alors, à nous de nous en préoccuper aujourd'hui.
Docteur Bolkenstein.
Et voilà la statue qui a été faite en mémoire de la création de l'euro.
Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est une parodie de statue, de sculpture soviétique des années 20.
Sauf qu'elle a la tête de Margaret Thatcher, jeune.
Alors elle est plus mince. Elle est beaucoup plus mince que la kolkhozienne soviétique. Mais elle dresse son bras et c'est pas une faucille et un marteau, mais c'est presque une faucille et un marteau. C'est un euro. Oh, c'est formidable. C'est le réalisme capitaliste. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil, Lobby Planète.
Flight number 2, arriving from New York.
Ah là, le Parlement européen à Bruxelles, cette construction un peu kitsch en glace, en verre et en acier qui est le Parlement européen.
Donc cet arbre-là est donné par le Society of European Affairs Professionals, so the organization representing the lobbyists.
Fédération européenne du lobbying et des public affairs.
Ah, ils vont faire un petit arbre.
Sur une petite place, derrière le Parlement européen. Les questions importantes doivent être résolues par la décision et la discussion, avec la détermination, de la patience et de la persévérance.
Ah oui.
And basically, this organization CEAP, this lobbyists lobby.
Oui, en fait, c'est CEAP, c'est the Society for European Affairs Professionals, la société pour les professionnels des affaires européennes. Notamment, c'est le lobby des lobbies qui fait sa promo ici en plantant son arbre et en offrant gracieusement son arbre et qui a été inauguré en présence de Nicole Fontaine
le 6 décembre 2001 avec Freddy Tillmans, le maire de Bruxelles.
Last year in March, the president of this organization sent an angry letter to the kind of secretariat of the European Parliament.
En mars 2004, le responsable de ce lobby des lobbies a écrit une lettre de mécontentement.
Because the public benches were overcrowded in the European Parliament.
Parce que les bancs publics étaient envahis dans le sein du Parlement européen, qu'il n'y avait plus de place.
Oh. We were not overcrowded by citizens who wanted to hear what was discussed in the European Parliament. It was just the increasing number of lobbyists which kind of completely outgrew the capacity of the seats and the headphones.
Et ces bancs publics étaient dans l'enceinte des institutions européennes. Ce n'étaient pas des citoyens européens qui venaient les occuper pour voir ce qui se passait, comment on décidait de leur destinée, mais c'était occupé, tous les bancs étaient occupés par des lobbyistes qui réquisitionnaient toute la place possible et tous les écouteurs de traduction.
C'est la lobbycratie.
Oui. so that is seven lobbyists per member of the European Parliament?
C'est 7 lobbyistes par membre du Parlement, élus.
Cette agréable musique, ce joli arrangement correspond assez au décor dans lequel nous nous trouvons. Il y a eu l'art nouveau à Bruxelles, il y a des beaux exemples d'art nouveau. Il y a eu l'art déco à Bruxelles, il y a de beaux exemples d'art déco. Et maintenant, on pourrait appeler ça l'art bureau. L'art bureau, l'Union européenne, c'est l'art bureau, c'est-à-dire quelque chose d'assez momoche avec ces buildings qui sont des espèces de petits Manhattan, mais en plus petits, comme ça, dégonflés, euphémisés, qui ne disent pas, qui ne s'affirment pas. Et c'est quand même peut-être un présage. Cette sculpture est tout à fait étonnante. Elle est petite, mais elle en dit assez long. Et puis, il y a cet arbre, donc, qui a été offert par le lobby des lobbies. Au Parlement européen. On est avec Éric Vesselius, vous l'aviez reconnu si vous avez suivi nos épisodes de vendredi et de lundi. Et avec lui, nous allons finir ce tour, cette visite guidée du quartier de l'Europe à Bruxelles sur les conclusions de son petit groupe, alors son petit lobby à lui. Eh ouais, pourquoi pas, puisque finalement on va tous finir en lobbyiste, chacun va être son propre lobbyiste, et à terme, mais dans peut-être un siècle ou deux, ça s'appellera la démocratie, c'est-à-dire que voilà, on va défendre les intérêts de plus en plus de chacun avec l'idéologie d'individualisme qu'on nous a vantée hier. Eh bien ça finira par que chacun défende ses propres intérêts, et ça s'appellera la démocratie qui a été inventée par les Athéniens au 6e siècle avant Jésus-Christ, et de cette façon on aura accompli vraiment un réel bond en arrière. On va avoir donc les conclusions, enfin comment s'en sortir, la solution d'Éric Vesselius et de ses amis du Corporate Europe Organization. Bon, Eric, donne-nous la solution. Comment s'en sortir? Comment en finir avec tout ça?
Well, it's clear that something needs to be done to get rid of this lobbycracy in Brussels.
Mais c'est, en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire pour se débarrasser de cette lobbycratie ici à Bruxelles.
And I think it will not be possible to do it within one or two years. It's really a longer term struggle. It took business a long time to get in the position that they're in now. It took them a few decades to really achieve their dominance over the general direction of policy in the European Union.
C'est un travail de longue haleine. Ça ne peut pas être réalisé en un an. D'ailleurs, les entreprises et les business qui ont réussi à imposer leur vision des choses aux institutions européennes, eux, ça leur a pris plusieurs décennies.
So the first step will be to convince citizens and people within political parties that this political power of big corporations is really a problem for democracy.
Donc déjà, c'est de convaincre les citoyens, aussi bien que les politiciens, que cette prépondérance des grandes entreprises dans l'appareil politique est quelque chose à remettre en cause.
Of course, they should take account of the opinion of business. But business shouldn't be given the privileged position that it holds right now.
Bien sûr qu'il faut prendre en compte les considérations des entreprises, mais c'est pas celle-ci qui doit entrer en premier lieu. C'est pas la première préoccupation, ce que réclament les grandes entreprises.
And more in general, it would mean a re-envisioning of the functioning of the European Union political system at the EU level.
Ça remettre en cause aussi le fonctionnement des institutions européennes et remettre à plat le fonctionnement des institutions au niveau politique.
Est-ce que c'est possible ça, si les Français votaient non, est-ce que ça remettrait en cause tout ça?
Not necessarily, but at least there's a chance. If
pas
you
nécessairement,
want to
mais au moins ça fait une chance. Si on veut avoir une chance de changer les choses.
For a different Europe, not the neoliberal Europe that is being constructed right now and which is kind of enshrined with the constitution. If you want to have any chance for a democratization of Europe, of having a social Europe,
si on veut avoir la moindre chance de démocratiser l'Europe, d'avoir une Europe sociale et qui ne soit pas une Europe néolibérale qui vraiment est portée par cette nouvelle constitution,
I think if you are in favor of such things, there's only one choice, and it's voting no against this constitution.
Si c'est ça vos préoccupations, alors il n'y a qu'un seul choix, c'est de voter non contre cette constitution.
People should realize that voting no doesn't mean that you vote against European cooperation. On the contrary, you can vote no against the constitution out of concern over the way the European Union is currently functioning.
Voter non, c'est pas voter contre l'Europe ou contre la construction européenne, ou bien au contraire, c'est voter contre la manière dont la construction européenne et le fonctionnement européen s'est organisé.
On se doutait que ces conclusions et ces prescriptions d'Éric Vesselius allaient dans le sens du non. N'oublions pas que Éric Vesselius est hollandais et que les Pays-Bas vont voter trois jours après nous, après le 29 mai prochain, et qu'ils sont très très attentifs à l'effervescence que nous connaissons et que nous exprimons actuellement en France. Alors, retournons-nous à nouveau quand même vers ces bureaux de lobbying. Eh bien, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer si vous allez, si vous voulez rencontrer Patrice Pellegrino de Eurocommerce. Le mot le gêne. Non, il ne veut pas qu'on dise lobbyiste parce que c'est péjoratif, c'est mal compris, c'est voilà, il y a un problème là, délicat. Il préfère qu'on dise qu'il est, lui, Patrice Pellegrino, donc le patron de Eurocommerce, un conseiller pour les affaires juridiques et consommateurs. Voilà, il se voit comme l'association européenne du commerce et qui représente les fédérations du commerce de 25 pays membres, plus quelques sociétés françaises comme Auchan, Accor, Carrefour, Casino, Pinot, Printemps, Redoute, etc. Alors, Patrice Pellegrino, est-ce qu'il s'agit d'un groupe de pression que la maison, le bureau qu'il dirige, un groupe de pression ou une expertise? Parce que ça, c'est très important de savoir que le lobbying se présente toujours sous le masque de l'expert. We trade the world. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, hein, comment expertise ou pression sur les fonctionnaires et les parlementaires européens. Quand est-ce que vous intervenez? Quand les directives s'élaborent ou bien vous suscitez l'élaboration des directives?
Alors d'abord, je préférerais dire expertise plutôt que pression, parce que pression, c'est pas, je n'aime pas beaucoup. En plus, parce que moi, je me considère plutôt comme un expert, donc j'apporte une expertise. Au niveau de la façon dont on intervient, c'est plutôt qu'à un moment donné, on leur donne, si vous voulez, l'idée de ce qu'il y a dans un texte qui est en cours d'élaboration.
Comment vous savez que le texte est en cours?
Parce que vous savez, Bruxelles est un petit village, hein, tout le monde connaît tout le monde sait ce qu'il y a, et puis c'est ce qu'on appelle, c'est typique des capitales administratives. Hein. N'oubliez pas, ça c'est souvent on oublie, qu'une proposition législative, quand elle sort, est souvent précédée, et quand je dis souvent, c'est pour pas dire systématiquement précédée, d'études, de livres blancs, de livres verts. Donc, quand vous aviez, par exemple...
Auxquels vous participez, ces études?
Bien sûr. Donc,
vous êtes en amont des propositions.
On n'est pas en amont. On est en amont de la fourniture d'expertise. Voilà. Parce que quand un livre vert est publié, il ne vous dit pas voilà la directive, il dit, on a constaté qu'au niveau européen, il faudrait intervenir dans tel domaine. Voilà les pistes de réflexion.
Et là, vous arrivez.
Contribuer. Et bien là, on contribue.
Alors, pour voir si on a bien compris, ne dites pas, pour éviter tout ce que ça peut avoir de péjoratif, lobbyiste, dites fournisseur d'arguments.
Là, c'est un peu bien. On est fournisseur d'arguments. Alors, d'abord, je préfère, plutôt qu'argumenter, je préfère fournisseur d'expertise. Hein, donc ça serait la première des choses. La deuxième des choses, il est évident qu'on essaye de faire considérer que nos expertises sont les plus valables que celles de notre voisin. Et ce qui est évident aussi, c'est que dans la majorité des cas, le résultat est aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau des organisations, le résultat d'un compromis entre des expertises qui vont se rencontrer, parfois s'appuyer, parfois se contredire, et au milieu, le rôle le jeu normal du politique qui doit faire le choix entre privilégier tel ou tel intérêt plutôt qu'un autre. Sur ce point-là, nous n'avons aucune autre capacité d'intervention.
Alors voilà, donc un expert, un fournisseur d'expertise, qui préfère dire fournisseur d'expertise plutôt que fournisseur d'arguments, on voit que l'euphémisme marche à fond quand il s'agit du lobbying. On n'a pas cette franchise des États-Unis où le lobbyiste est un lobbyiste, un point c'est tout. Ici, en Europe, et ben c'est peut-être le charme de notre vieille Europe, il faut mettre des gants, des masques pour dire des choses toutes simples, c'est-à-dire pour dire que l'on influence et que l'on cherche à manipuler l'opinion et les décideurs. Alors, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de monde. J'ai parlé de 15 000 lobbyistes, mais c'est beaucoup de matière grise. Patrice Pellegrino, vous l'avez entendu, est un homme cultivé qui est dépositaire de diplômes, d'expérience, d'expertise, et il y a une matière grise considérable qui est mobilisée à Bruxelles et dans l'ensemble de cette construction, pour cette fabrication, cette construction de l'Europe. C'est dire si ceux qui se mettent à l'écart et qui critiquent ces experts et ces fournisseurs d'expertise et d'arguments ont de mérite et sont rares. C'est le cas de Geoffrey Gwens, qui est à l'université, qui enseigne à l'université de Liège, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Tout pouvoir confondu, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation ». Que pense-t-il, lui, dans sa version? Après tout, c'est un intellectuel, c'est aussi un fournisseur d'arguments et d'expertise. Que pense-t-il de la façon dont sont prises à Bruxelles les décisions qui nous concernent?
Alors, comment se prennent les décisions au niveau européen?
Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que, au-delà de la prétendue pression des lobbies, enfin, qui existe aussi, mais je pense que c'est vraiment qu'une petite réalité des rapports entre pouvoir politique et pouvoir économique, il y a aussi l'importance des commissions qui sont mises en place par les commissaires européens, de ce qu'on appelle en Grande-Bretagne les task force, les groupes de réflexion, etc. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait lobbying, qu'il y ait pression, puisque c'est la commission qui décide de nommer comme conseiller de sa table ronde sur l'avenir des services, par exemple, hein, le vice-président de la table ronde des industriels européens, le vice-président de l'IVETI. On pourrait donner d'autres exemples. Donc on voit que déjà là, au niveau de la prise de décision, lorsque l'on regarde les organes qui sont chargés d'émettre des rapports ou de donner leur avis au niveau européen, à la limite, il n'y a pas besoin de pression, puisque le travail qui est fourni par l'UNICE ou par la table ronde et répété une seconde fois de façon beaucoup plus efficace par ces dirigeants qui sont invités par les commissaires européens à officiellement être membres de leur groupe de réflexion. Donc on voit que déjà là, l'extériorité, elle est déjà un peu plus bancale. Ils sont déjà dans la place.
Alors ça veut dire, vous donnez raison aux responsables de lobby que nous avons rencontrés et qui nous disent, ah mais non, nous on ne fait que donner des expertises, donner des conseils quand on nous demande, mais finalement, ce sont les politiques qui tranchent et qui choisissent.
On pourrait dire oui, sauf que ça laisse supposer l'idée qu'il y aurait donc une égalité dans l'influence susceptible de tous les lobbies sur le politique. Or, précisément, ce qui est intéressant de montrer, c'est que le politique entretient déjà, bien avant le lobbying, des liens très étroits avec le monde des affaires. Et donc, que ces lobbies-là sont plus puissants que les autres, mais parce qu'ils agissent sur un personnel qui est déjà, assez naturellement, par toute une série de mécanismes, disposé à suivre plutôt les conseils de ces lobbies que les conseils de contre-lobbies. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut penser sérieusement que la Commission européenne subit l'influence de la table ronde des industriels européens quand c'est Étienne d'Avignon, vicomte de son État et ancien vice-président de la Commission, qui lui-même a demandé à l'époque à Per Gyllenhammar de créer la table ronde des industriels européens?
C'est quoi cette table ronde des industriels européens? À quel rôle?
Alors la table ronde des industriels européens est très différente de l'UNICE, ce n'est pas un organisme chargé de défendre...
L'UNICE, c'est le MEDEF européen.
Voilà, l'UNICE, c'est le MEDEF européen. Donc en principe, il y a une défense de toutes les grandes, grandes et peut-être les plus petites entreprises. Donc on s'inscrit dans une dynamique de défense sectorielle, alors que la table ronde, c'est quelques grands noms de l'industrie européenne ou de la haute finance. Et là, on est plutôt dans une relation directe de la Commission avec les compagnies les plus puissantes. Donc je crois que la table ronde est probablement moins institutionnelle, moins officielle, mais peut-être beaucoup plus puissante que l'UNICE d'une certaine façon.
Pour fournisseur d'arguments et fournisseur d'expertise. En voici un autre, le Lisbon Council, Paul Hofheinz, qui est un journaliste américain vivant en Europe et qui est convaincu depuis des années de l'importance évidemment de cette Europe telle qu'elle est en train de se construire. Mais lui, on l'a vu hier avec ce think tank qui était, alors franchement, vive le capitalisme et qui organise le bal capitaliste, les bouteilles de champagne capitalistes, etc., qui se déclare ouvertement ultra-libéral et qui trouve qu'il y a le problème qu'on a avec ce traité. C'est qu'il n'est pas, il est beaucoup trop social et il y a trop de protection, il est trop socialiste, il est presque, c'est un traité marxiste-léniniste quasiment à leurs yeux. On va voir qu'avec Paul Hofheinz, qui est donc lui à la tête du Lisbon Council, un think tank, la juste ligne est au juste milieu. Paul Hofheinz.
Paul Hofheinz, je suis président du Lisbon Council, une association sans but lucratif basée à Bruxelles qui travaille sur l'agenda de Lisbonne. Une décision prise par le Conseil européen il y a 5 ans de créer l'économie la plus compétitive et dynamique basée sur la connaissance avec plus de cohésion sociale avant 2010. Apparemment, ça marche pas très bien, mais nous, on a décidé de créer un think tank, une espèce aussi de ONG qui va travailler dans le secteur privé pour réfléchir, pour parler, pour échanger des idées, pour essayer à faire bouger l'agenda.
Voilà, parce que c'est pas des chercheurs désintéressés dans une université. Voilà. Il y a une ligne que vous définissez vous-même comme le radicalisme centriste.
Oui,
c'est comme ça que vous définissez. Les radicaux, les extrémistes du centre.
Oui, vous êtes bien informé. Radicalisme du centre. Parce que, à mon avis, la société est complètement bloquée à ce moment-ci. Et c'est un très grand problème si les gouvernements ne peuvent pas trouver des solutions à nos grands problèmes. Ça va devenir de pire en pire. Et un jour, les choses vont commencer à changer. Et notre position, c'est que le centre doit saisir les possibilités maintenant. Il donne les possibilités à changer, parce que sinon, le contraire, c'est que ces votes vont aller aux extrémistes. Et on va pas parler des dernières élections en France, mais là, on a eu un exemple très profond. C'est une espèce de blocage qui est très, très dangereux. Parce que si le centre ne fait pas bouger la société, les extrémistes vont le faire. Mm-hmm. On a vu l'extrême droite dans les dernières élections, mais l'extrême gauche est là aussi.
Quels sont vos bailleurs de fonds et quels bailleurs de fonds vous refuseriez?
Les noms, vous voulez dire, mais pour l'instant, on n'en parle pas, et je dirais pourquoi. Parce que nous, on a pris des positions publiques très fortes, et ces positions ne sont pas toujours les mêmes que nos... ailleurs, comme vous avez dit,
de fond.
C'est loin, pas toujours la même. Mais juste pour différencier, on ne raconte pas les noms de qui, mais je dirais quoi exactement. Il y a 9 sociétés qui nous ont aidés. Ce sont des sociétés de stand-in. Les noms sont connus. Vous les lisez tous les jours dans les journaux. Peut-être un de ces jours, on en dira plus. Mais pour l'instant, on a décidé d'avoir un mur chinoise sur cette question-là.
Un mur muraille de Chine.
Muraille de Chine sur cette question-là.
C'est des grandes boîtes qu'on connaît, voilà. Qui contribuent, qui financent vos recherches, vos prises de position, voilà. Mais qui ne veulent pas encore apparaître ouvertement.
Non, c'est pas exactement, plus ou moins ça. Ce que j'essaie à dire, c'est que c'est nous qui... Et eux, ils sont d'accord pour qu'on les dise. Mais nous, on ne veut pas que tout le monde dise que ce sont ces sociétés-là qui défendent la directive du service, parce que ce ne sont pas ces sociétés-là, c'est nous qui le faisons. On est complètement indépendants.
Quel est leur intérêt à eux en vous finançant? On donne pas d'argent pour rien.
Non, bien sûr, il faudra leur demander à eux-mêmes. Je sais pas. Mais eux, ils sont intéressés à la création d'une société qui peut faire avancer l'agenda de Lisbonne, la modernisation de notre société. Sinon, ils n'auraient pas donné de l'argent.
Donc c'est un travail idéologique.
Ça dépend de ce que vous voulez dire, idéologique. C'est pas tout à fait idéologique, mais il y a de l'idéologie ici. C'est plutôt question des résultats. Vous parlez de l'idéologie. à mon avis, ça vaut mieux à oublier tout ça, parce que tout le monde est dans une situation maintenant, c'est droite, gauche, gauche, droite, c'est pas tout clair ce que ça veut dire dans le monde où on vit. Ce qui est clair, c'est que la société n'avance pas, et nous, on veut l'avancer. Et je suis pas du tout sûr si c'est une idée de gauche, une idée de droite, c'est une idée d'avancement. Je prends un exemple très simple et très clair, tout le monde, le chômage. Ce qui est scandaleux, il faut créer de l'emploi, il faut faire quelque chose. Je trouve moi-même, personnellement, j'aime bien le système danois de flexicurité, où ils ont la réglementation pour le licenciement avec les moins de protection en Europe. Mais le résultat a été le contraire. Ils ont aussi le niveau d'emploi le plus élevé. C'est plus élevé qu'aux États-Unis. C'est, comme on dit, un job creating machine. Et ça vaut la peine d'étudier comment ils l'ont fait. Ça vaut la peine. Et en l'étudiant, il faut oublier toutes ces questions d'idéologie. C'est ça que j'aime pas en France. C'est que ces questions se regardent toujours du côté soit le droite, soit le gauche. La question doit être qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi?
Donc, pour vous, une piste, c'est flexécurité.
Flexécurité. Absolument, oui.
Alors évidemment, le chiffre de l'emploi en Grande-Bretagne, comme au Danemark, comme tous ceux qui sont très couramment cités, sont des chiffres hautement discutables. On sait comment ces économies, ces pays, ont mis en place, comme chez nous d'ailleurs, mais chez eux souvent de façon plus radicale, toute une série de dispositifs qui permettent de réduire le fameux chiffre de l'emploi, avec des systèmes multiples et des variés, tout un tas de voies de garage et de précarisation qui permettent de faire baisser ce chiffre. Mais tout ça est discutable et discuté, sauf avec notre ami qui lui voit les choses d'une manière très radicale, puisque la solution au centre, la radicalité du centre, c'est la flexécurité. Alors il nous a pas dit, Paul Offen, il nous a pas dit qui étaient ces bailleurs de fonds, mais il se pourrait bien qu'on ait deviné, mais on n'est pas sûr du tout, qu'il y en ait un qui soit déjà passé sur France Inter le 10 décembre 2004, un matin sur France Inter. Il a été question de flexécurité, justement.
Serge Lassau.
Regardez le problème du Danemark. Ben, Danemark fait la flexécurité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la liberté totale d'embauche et licenciement, il n'y a même pas de salaire minimum, il n'y a même pas d'encadrement, c'est la liberté totale, moralité, 6% de chômage. Bon. Vous savez, si on empêche les entreprises de licencier, elle n'embauche pas. Il faut laisser la liberté. La marque fait la flex sécurité.
Voilà. Voilà à quoi sert une machine à idées, comment une machine à idées est reprise et comment ça se diffuse, qu'est-ce que c'est que le fournisseur d'arguments et le fournisseur d'expertise, à quoi ça sert et comment ça arrive jusque dans vos matinales oreilles. Alors, toujours avec le Lisbon Council et toujours avec Paul Offens.
Je crois que tous les débats autour de la directive sur les services, ce qui est le vrai nom de cette directive, c'est plutôt une question des relations de la France avec le monde autour d'elle. Je suis convaincu que une bonne directive de services, qui veut dire une bonne ouverture des frontières aux fournisseurs de services en Europe, ça va être bon pour la France, comme l'ouverture du marché des produits a été bon pour les Français aussi. Et pourquoi? Parce que la France est très forte. C'est une économie de talent avec beaucoup de gens qui font leur boulot très bien. Ils auront la possibilité d'aller partout en Europe où ils ne sont pas maintenant. C'est bon pour les Français. Je ne comprends pas du tout. Je crois que cette directive a été impliquée dans une discussion beaucoup plus grande. Ce qui est les difficultés de la France à moderniser, les problèmes internes, et à mon avis, une directive de service va aider à la modernisation de la France, et j'appelle aux gens à y réfléchir. Et le problème, c'est que nos institutions et même notre manière de réfléchir n'a pas changé. On continue à penser comme si on était dans le 19e siècle. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a les syndicats qui sont bien organisés sur un côté, on a le patronat qui est bien organisé aussi. Et ce sont deux institutions du 19e siècle. Ils se débattent depuis 100 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les syndicats demandent de plus en plus en plus. Ils disent, ben voilà, on travaille 35 heures. Si on ne peut pas travailler 34, c'est pas social. Moi, je dirais que c'est pas le cas. Le problème, c'est que le système qu'on a aujourd'hui n'est pas acceptable dans le monde qu'on a aujourd'hui. Il faut que les gens changent leur mentalité, qu'on garde nos valeurs, mais on change la mentalité qui existe autour de ces questions. Et je souligne que les gens qui ont un emploi, ils ne peuvent pas continuer à demander de plus en plus en plus. C'est ça que j'essaie de dire. Je ne sais pas si c'est une idée socialiste, une idée libérale. Je dirais juste que c'est une idée très importante et j'appelle aux gens à y réfléchir.
C'est-à-dire, en clair, vous pensez que les salariés qui ont du travail, quoi, qui ont des emplois fixes, sont trop exigeants, mettent trop de pression à travers leurs syndicats, trop corporatistes, quoi, en somme.
Ben, j'ai passé par Paris il n'y a pas longtemps et ça, j'ai vu devant mes yeux. J'ai pas pu prendre le métro. Parce que là, ils se plaignaient qu'ils sont pas assez bien payés, qu'ils travaillent trop, etc., etc. Et si les gens qui ont un emploi vont continuer cette tendance, ils vont demander tout le temps plus et plus et plus et plus, quand les gens qui sont complètement en dehors du système montent, ben, ça m'étonne que la crise sociale n'est pas pire qu'elle est aujourd'hui. Ça va devenir de pire en pire.
What about this announcement from Rhodia? Obviously the fact that Tura Flake has so much to get rid of, 7.4 million euros as CEO, but also the requirement
for Ventus decided to shoot up.
Vous avez remarqué dans l'entretien, les mots que vient de prononcer Paul Hofheinz, la directive Bolkestein, il n'en a pas été question du tout. Hein? Il a appelé ça directive sur les services. Et si vous n'avez pas l'oreille affûtée, eh bien, voilà, c'est ainsi qu'on fonctionne un bon lobbyiste, un bon agent d'influence, un fournisseur d'arguments et d'expertise. C'est en jouant, évidemment, sur les mots sont importants, et les mots sont importants pour quelqu'un comme Geoffrey Guen. Je rappelle qu'il enseigne à l'Université de Liège, qu'il est l'auteur d'un bouquin intitulé « Tout pouvoir confondu » et qu'il se penche depuis des années sur ces connivences entre les lobbies, les pouvoirs des multinationales et des grands groupes financiers et des médias. Alors, quel est, Geoffrey Guens, le rôle et le poids réel de ces lobbies vis-à-vis de l'Europe?
Je crois que si les lobbies aident à renforcer les liens entre le monde politique et le monde des affaires, et que ces liens sont déjà très établis au préalable, je pense que le travail des lobbies, c'est un travail peut-être plus d'influence sur ceux qui sont chargés du monopole de la parole légitime dans l'espace public. Je l'explique autrement, je veux dire par là qu'à mon avis, le rôle des lobbies, c'est peut-être plus de faire passer un discours dans les médias et de convaincre l'opinion publique que oui, il est nécessaire de mener telle ou telle réforme. Alors que sur le personnel politique, est-ce qu'on peut penser sérieusement qu'ils ont besoin de les convaincre de cela? Et non, ils le sont évidemment.
Alors comment ils opèrent sur les médias?
Alors sur les médias, je pense que là, bon, il faudrait passer par une sociologie du monde journalistique. Il faudrait montrer, comme l'a bien fait Alain Cardo dans ses travaux, que bon, déjà, il y a une précarisation d'une partie du corps journalistique qui est de plus en plus, et là on peut parler de victimes, plus ou moins consentantes, des attachés de presse ministériels ou des directeurs de cabinet de grandes entreprises, etc. Et on sait que dans la presse, on peut le regretter, mais c'est ainsi, de plus en plus, la logique du couper-coller, c'est-à-dire on prend le document envoyé par Public Relations, une grande entreprise, qui souvent est un ancien journaliste, donc qui connaît les ficelles et les contraintes du métier, et puis on le colle, et bon, on a un article. Donc il y a des mécanismes de cette façon qui ne relève absolument pas du com, mais qu'on doit étudier en termes de sociologie, des pratiques journalistiques au quotidien qui expliquent ces phénomènes. Et puis, à plus haut niveau, il est très clair qu'il y a là aussi des liens très étroits entre l'élite médiatique, le monde politique et le monde des affaires, que ce soit entre autres à travers l'entremise de cercles privés comme le Siècle en France ou le Cercle de Lorraine en Belgique, où là, ben, je veux dire, il y a une ligne qui est en accord et qui peut servir globalement les intérêts de la classe dominante. Et puis, il y a le reste des journalistes qui suit et qui est là plus ou moins victime des stratégies des public relations, stratégies particulièrement efficaces.
Les journalistes étant les pom-pom girls du capitalisme, hein, pour prendre une image fameuse. Bon, ça fait un peu complot votre explication là.
Mais non, justement, je crois que c'est la théorie du lobbying qui est plus proche de cette idée qu'il y a concertation, qu'il y a organisation, qu'on écoute les conseils, qu'on se réunit et puis qu'on prend des décisions. Moi, au contraire, ce que j'essaye de montrer, c'est que par toute une série de mécanismes, en réalité, on n'a pas d'un côté le monde politique et de l'autre le monde des affaires, on a des personnalités qui circulent d'une sphère à l'autre, et donc il n'y a pas de complot. Ils sont faits pour s'entendre naturellement, ils sont passés par les mêmes grandes écoles, ils sont passés par les cabinets ministériels, puis ils passent dans le monde politique, ils fréquentent les mêmes cercles privés, ils financent les mêmes think tanks, et donc c'est une reproduction assez classique des élites, qui donne cohésion véritablement à la classe dominante, d'où l'importance aussi de l'étude du capitalisme, toujours à partir de la notion de famille, les familles qui sont encore beaucoup plus présentes qu'on ne le croit. Michel et Monique Pinson-Charlot expliquent qu'on a affaire, contrairement au dit qu'on est néolibéral, à un collectivisme de la classe dominante. Je crois vraiment qu'elle fonctionne sur la base d'un collectivisme, contrairement à l'idéologie néolibérale, pour la bonne et simple raison que si l'on prend tous les principes fondateurs du néolibéralisme, on constate tout simplement que le fonctionnement du système et l'exact inverse, l'exact retournement du discours néolibéral tel qu'il prétend décrire le monde. En gros, le néolibéralisme, quels sont les éléments essentiels de son discours? C'est le primat de l'individu sur le collectif, sur les structures sociales, sur les classes sociales qui auraient disparu. Ce serait donc un monde fait d'individus entreprises, d'individus libres. C'est un monde dans lequel l'État ou le politique serait soumis aux exigences d'un marché qui serait un marché libre de toute contrainte. Et en fait, le néolibéralisme, c'est aussi cette idée que on a affaire à des entreprises qui sont véritablement dans une relation de pure concurrence. Or, quand on étudie un peu concrètement la structure de toute une série de secteurs de l'économie, on constate qu'il y a moins de concurrence qu'il n'y a de cartel et de collaboration, qu'il n'y a moins d'individus libres et concurrentiels qu'il n'y a de familles, de réseaux et de classes dominantes qui s'inscrivent dans véritablement une stratégie collectiviste, et en fait qu'il y a beaucoup moins d'États ou de politiques victimes que d'États premier relais des capitaux et des intérêts privés. Et donc, petite parenthèse, ça montre bien que le néolibéralisme, on ne doit pas lutter contre. Le néolibéralisme, c'est un discours, c'est une idéologie. Ce n'est pas la réalité du fonctionnement de notre système.
Donc, alors, à quoi servent les lobbies? Moi, j'ai toujours pas ma réponse.
Et je le dis, je crois que vraiment, les lobbies ont une influence probablement de pression sur les médias, sur les journalistes, et surtout de légitimation d'un discours dominant s'appuyant sur une prétendue expertise chargée de dire il est indispensable de mener telle ou telle réforme. Mais ils viennent en appui de mécanismes sociologiques beaucoup plus diffus, mais ô combien plus efficaces.
Alors je reprends la question que vous vous êtes posée à vous-même et qui n'est pas nouvelle. Que faire?
Alors que faire? Bon, je ne vais pas être très original non plus. En tout cas, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, je le répète une fois, c'est que ceux qui sont censés combattre un pouvoir, peu importe qu'ils le qualifient de néolibéral et que déjà cette qualification est assez trompeuse, mais que ceux qui sont censés combattre ce nouvel ordre mondial, et je pense à de larges fractions de l'intermondialisme et au mouvement plus médiatique comme attaque, en tout cas dans certaines de ses composantes, en viennent eux-mêmes à penser le pouvoir dans les termes qui leur sont imposés par le pouvoir. D'un côté, on dit qu'il faut moins d'État, de l'autre, il faut plus d'État, mais l'État et le marché ne sont pas séparés. C'est déjà un et une seule entité, d'une certaine façon. Premier problème, le politique est victime, non, le politique, il est bourreau des entreprises. Idem, mais non, ils ne sont pas séparés l'un l'autre. Une fois de plus, moins de régulation, plus de régulation, mais la régulation, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire, la régulation? On a des institutions politiques qui mènent une politique, mais voilà, le système, il est régulé. Donc, je crois que la première chose à faire, il n'y a pas de pratique sans théorie, et donc je crois vraiment que la première chose, c'est de prendre le temps de sortir des sentiers un peu battus de l'intermondialisme mondain et de réfléchir un peu plus sérieusement sur le fonctionnement réel du capitalisme et non pas sur le néolibéralisme qui n'est que, disons, sa vitrine idéologique.
Voilà, merci à tous. Merci à Geoffrey Guens, qu'on vient d'entendre, de l'Université de Liège. Merci à Eric Vesilius de CEO, Corporate Europe Observatory. Merci à Paulo Freire de Lisbon Council. Et à Patrice Pellegrino. C'était un reportage de Guy Vantil, traduction et montage de Guy Vantil. À lire le guide Lobby Planète de Bruxelles de CEO, en ligne sur le site Corporate Europe. On a ce mot, corporateeurope.org. Aussi Europe Inc. Comment les multinationales construisent l'Europe et l'économie mondiale du même observatoire de l'Europe industrielle. C'est aux éditions Agon, le bouquin de Geoffrey Guens, Tout pouvoir confondu. C'est aux éditions EPO. Et toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Thomas. L'équipe de la Basse Suisse, c'est Antoine, Chao, Yann Chouquet, Pascal Le, Pascal Yellow et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 54 secondes de réclame, vous retrouverez Frédéric Bonneau. Et en direct de Cannes, chance extraordinaire, Frédéric Bonneau, Charivari, en direct de Cannes. Nous on se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis. Salut, réclame.